On va poser le décor de l'émission. Aristide Tarnagda, vous êtes à Ouagadougou. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu l'endroit où vous vous trouvez?
Alors, je suis dans la cour du chef de Buxomtenga, le quartier où a lieu les récréatrales. Au-dessus de nous, c'est le ciel, avec le ciel parsemé d'étoiles. Et dans la cour, il y a des maisons disséminées un peu partout, avec de la lumière, des fleurs, des canaries, d'eau, un tableau d'études, et puis voilà quelques arbres. Et puis le ciel, au-dessus du ciel, vous savez, c'est le début de l'harmattan en ce moment au Burkina Faso et puis à Ouagadougou en particulier. Donc le ciel est un peu nimbé de l'harmattan. Il y a un peu une petite couche de poussière comme ça qui s'élève vers le ciel.
Et c'est quoi les sons qui vous entourent ?
Le son qui nous entoure en ce moment, c'est un peu la musique qui provient de ce que nous appelons les maquis, les bars ici, et puis quelques voix de muezzins, parce que je pense que c'est un peu l'heure de la prière pour les musulmans. Et voilà, et puis c'est curieux, mais dans la cour où je suis, j'entends aussi le silence au milieu de tout ce brouhaha là, voilà, et puis des voitures qu'on entend au loin, quelques bruits de motos, mais beaucoup plus la musique, quoi, la musique qui provient des bars, parce qu'on est samedi soir et que la ville se prépare à la fête en fait.
Et alors collé à ce décor à Ouagadougou, il y a l'intérieur du chorégraphe Thierry Thionyang. Thierry, vous êtes où exactement?
Je suis confiné à Paris dans une impasse dans le 20e arrondissement. Je suis dans ma chambre, assis à une vieille table en bois, où il y a des livres, des dessins d'enfants, il y a des objets, un éléphant, un tigre, il y a des crayons de couleur, et puis des livres à lire pendant ces temps où tout est suspendu. René Char, Virginia Woolf, Tiffany McDaniel, George Didi Huberman. Voilà.
Le décor est posé, on peut commencer. Il est 20h03 sur France Culture et le théâtre, c'est prendre soin de la vie. Alors on essaiera de prendre soin de la vie. C'est le message que nous avait laissé Aristide Tarnagda depuis Ouagadougou. C'était le 29 août dernier, c'était la première émission de l'année. Tout reprenait et on espérait. Alors qu'en France, la scène est à nouveau à l'arrêt, le festival des récréatrales a bien eu lieu il y a quelques jours à Ouagadougou. Le théâtre a investi les cours familiales. Et ce soir, Aristide Tarnagda et deux jeunes comédiens, Maïmouna et Angèle Fred, nous y attendent, en direct de la cour du chef de Buxemtenga, quartier du festival. Aristide Tarnagda le dirige, mais il est aussi comédien, metteur en scène et auteur. Et son écriture donne à entendre toutes sortes de corps, de destins. Elle a une pulsation qui ne laisse aucune place au désespoir. Elle prend soin des âmes et des douleurs. En entendant « prendre soin », j'ai immédiatement pensé au chorégraphe Thierry Thionyang. Pendant ce mois de novembre si particulier, il continue à aller à l'hôpital Avicenne à Bobigny, comme depuis 2 ans maintenant. Il fait entrer la danse là où elle n'est pas, il accueille la vulnérabilité, il part réparer ce que la danse peut réparer, parfois une image de soi, de son corps, des désirs. Il le dit, l'hôpital est une ville, un pays, un monde, et à Avicenne, il y a toutes les langues et tous les corps et autant de récits. Alors ce soir, on fera le pont entre Ouagadougou et Bobigny. La scène, elle est dans une cour d'une maison familiale, elle est dans un couloir d'hôpital, là où il y a des gestes et des paroles. Alors tout s'arrête et rien ne s'arrête, les artistes sont au travail et on essaiera de prendre soin de la vie. Wow. On va donc changer de paysage au cours de l'émission, puisque je suis seule en studio et que mes invités sont chez eux. On commencera par être chez Thierry Tionyang pour parler de sa résidence à l'hôpital Avicenne, en partenariat avec la MC 93 de Bobigny. Et puis on ira ensuite à plus de 6000 km au Burkina Faso, à Ouagadougou, avec Aristide Tarnagda. C'était la 11e édition des Récréatrales fin octobre. Il nous attend avec deux jeunes qui ont joué la pièce Le Quartier, Angèle Fred Ilboudo et Maïmouna Sorgo. Et comme la musique ne peut pas être en live, en studio en ce moment, la chanteuse Imani nous a envoyé un morceau inédit. C'est tous en scène, en direct sur France Culture. On commence par le lieu où Thierry Tionyang fait entrer la danse, pas une scène habituelle, l'hôpital Avicenne de Bobigny, où Toby Nathan a créé le premier service d'ethnopsychiatrie.
Dans les sociétés occidentales, bien entendu, nous avons des patients qui sont des immigrés. Nous avons des Africains qui sont immigrés et qui sont à Paris. Lorsqu'ils tombent malades et qu'ils se présentent à nous, ils se posent à peu près les mêmes problèmes qu'en Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de celui qui va parvenir à se marier avec eux, dont la théorie va parvenir à épouser leurs symptômes. Ils sont dans cette recherche. C'est à tel point vrai que on dit cela de manière explicite. On dit, quand il y a quelqu'un qui a une souffrance psychique, on reconnaît la souffrance et puis on le prévient. On lui dit, il va falloir en voir des gens avant de trouver le bon. On dit comme ça, au Maghreb on dit comme ça, en Afrique aussi on dit comme ça. On sait bien que c'est un long parcours et au bout d'un certain temps, il va y avoir cette adéquation qui va se trouver. Donc dans ce parcours existe la consultation que je dirige, qui s'appelle consultation d'ethnopsychiatrie. Donc il ne s'agit pas de mentir aux patients et de dire « je suis un guérisseur traditionnel, venez, je vais vous faire un rituel de possession ou je vais vous désenvoûter ou je vais attaquer la personne qui vous a marabouté, etc. » Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit, à partir du moment où on a compris que ces théories étiologiques constituent le cadre et la condition de possibilité de l'expression de cette souffrance, de leur réserver une place dans le cadre de notre travail clinique.
Thierry Tionyang, vous allez à l'hôpital Avicenne de Bobigny depuis l'automne 2018 maintenant, et sur votre blouse blanche, je crois qu'il y a marqué « danseur et chorégraphe ». Et une des premières choses que vous me disiez, c'est que c'était une ville-monde des deux côtés, du côté des soignants et des patients, qui avait autant de culture et de langue qu'on pouvait l'imaginer. Comment vous décririez cette ville-monde ?
La première fois où je suis allé dans cet hôpital, j'ai été très, très bouleversé parce que, effectivement, je voyais autant de soignants qui étaient issus d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres pays. Des médecins, des infirmiers qui étaient tamoul, qui étaient turcs, qui étaient de ces origines et qui portaient leur culture accrochée à leur blouse blanche. Et souvent, quand les patients qui parlent pas très bien la langue française, ben ces gens-là venaient et leur expliquaient le protocole, le protocole de soins, la maladie, la douleur dans leur langue maternelle. Donc je pouvais entendre dans une chambre une infirmière parler en bambara comme une autre en vietnamien. Et j'étais très ému en me disant, mais c'est pas très compliqué en fin de compte de parler ensemble, de travailler ensemble, de penser, de prendre soin les uns des autres en accueillant ainsi toutes les langues et toutes les cultures. Et cette rencontre-là m'a donné envie, donc moi-même, en allant dans les chambres, en allant voir chacun des patients, de faire à chaque fois une recherche en me disant, tiens, aujourd'hui je vois un monsieur chinois, demain une dame turque. Donc je cherchais des musiques, des poèmes venant de leur pays pour leur offrir et puis en leur offrant ces textes, ces chansons, ces images, ensuite je me mettais à danser devant eux.
Et avant la danse, parce que vous posez cette question, que peut la danse et comment la faire entrer dans ces espaces-là, mais avant ça, vous parlez beaucoup de présence et d'écoute. C'est quoi ces premiers moments
voilà, juste de présence que vous consacrez aux patients ou aux soignants avec lesquels vous allez travailler, passer du temps?
Alors en effet, c'est souvent sur plusieurs temps, donc je peux passer 5-10 minutes dans un service où les patients sont en chimiothérapie, puis tout à coup ils sont fatigués, ils s'endorment, ou alors rester 3 heures de suite avec la même personne. Je me présente, je raconte pourquoi je suis là, pourquoi j'ai besoin de rencontrer d'autres corps, d'autres gestes, pour inventer, pour agrandir ma propre danse, et puis je leur demande de me parler de leur culture chorégraphique. Est-ce qu'ils ont dansé? Quel type de danse il y a dans leur pays? Je leur demande de me raconter d'où ils viennent. Je leur raconte d'où je viens. Et le lendemain, je ramène donc des documents sonores, des images. On discute, on parle, on écoute. Et je les enregistre. Et à la fin de la séance, je leur mets un casque aux oreilles et je rembobine notre conversation. Et ils se réécoutent. Et pendant qu'ils se réécoutent, je danse en silence dans la chambre et je sens qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'écrire ensemble, ce moment-là où je danse et ils s'entendent raconter quelque chose d'eux et quelque chose de la danse, de la musique, de l'art.
Et en parlant de ce moment, vous disiez, c'est eux les chorégraphes à ce moment-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Parce que je suis alors dans une danse complètement improvisée, animée de cette rencontre, animée quelquefois de gestes qu'on a fait ensemble, en se donnant la main, par un massage, par un geste simple de marcher ensemble dans le couloir ou d'aller regarder quelque chose à la fenêtre. Et le fait qu'ils s'écoutent et qu'ils entendent ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont chanté, ce qu'ils ont dit dans leur propre langue aussi. Je sens qu'ils regardent mon mouvement et leur regard transforme ma danse. Ils sont mes premiers spectateurs, ils sont souvent les spectateurs uniques et dans cette confidence, dans cette rencontre, il y a leur présence et c'est une présence où je les sens qu'ils sont chorégraphes puisque tout à coup, ils me regardent et par leur regard, je peux inventer, je peux danser.
Et j'imagine que par la danse, en tout cas en parlant du mouvement, on peut partir à la conquête de certaines parties de nos corps qui nous sont devenues étrangères parfois, et surtout quand on est malade ou quand il s'est passé des choses graves. Et vous me parliez du travail qui venait de commencer pour vous en chirurgie orthopédique, dans ce service-là, où parfois des gens ont perdu un membre, une main, une jambe. Comment vous travaillez au mouvement avec ces gens-là?
Oui, je viens de commencer cette aventure qui est passionnante puisque tout à coup le fait de me retrouver face à des personnes qui ont été amputées et ou alors qui ont été greffées, je leur donne ma main, je leur donne mes jambes pour bouger, pour se soigner, pour se reconquérir tout doucement avec ce monsieur qui a été amputé, qui est aussi un peu un cow-boy puisqu'il est assez courageux, assez plein de distance et d'humour avec ce qu'il vient de traverser. Donc je lui parlais du travail des jambes, je lui montrais ce qu'on pouvait faire et je lui disais mais regardez-moi, je vais danser pour vous et imaginez que mes jambes sont les vôtres. Et à la fin de ce petit exercice, de ce petit jeu entre nous, il me disait mais j'ai senti dans cette jambe qui me manquait qu'elle m'était revenue. Et voilà, il y a cette image qu'on a du membre fantôme. Et au lieu simplement de la visualiser, simplement de danser pour cette personne-là, lui permettait de tout à coup remettre du corps, de remettre un bras, de remettre une jambe à l'endroit où il n'en avait plus.
Et vous, Thierry Tionyang, comment justement vous disiez, quand je les rencontre, je leur raconte pourquoi je suis là et pourquoi leurs gestes, leur corps peuvent agrandir ma pratique à moi et ma perception des gestes et des corps. Vous avez l'habitude de travailler avec des gens qui ne sont pas des danseurs professionnels, des enfants. Vous avez déjà travaillé dans un EHPAD, dans toutes sortes d'endroits. Comment vous répondriez à cette question? En quoi ça a grandi votre danse?
Ben, je crois que j'ai toujours eu besoin d'un autre corps pour danser. Comme si, à un moment donné, j'avais fait le tour des possibilités de mon propre mouvement, de ma propre histoire, et que j'avais besoin d'être confronté à un autre corps qui n'était pas forcément un corps virtuose, un corps danseur, mais un corps en mouvement. Qu'est-ce qui anime un corps, que ce soit celui d'un enfant, d'un prisonnier, d'une personne atteinte d'Alzheimer? Et à partir de ce mouvement-là, je découvre un vocabulaire, un langage qui n'est pas du tout académique, codifié, qui est un langage physique venu d'un quotidien, de petits gestes comme des gestes plus ludiques chez l'enfant, des gestes plus arrêtés chez une personne âgée. Et ce vocabulaire me permet de m'enrichir, d'oser moi-même dans ma propre danse, de remettre de l'enfance, de remettre de l'empêchement, de remettre d'autres danses, d'autres cultures, d'autres mouvements, et simplement d'enrichir un lexique, une langue qui serait celle de la danse.
Vous aviez déjà fait une restitution publique, comme un journal de bord d'expérience, avec des textes, de la musique, des portraits, sur scène à la MC 93 à Bobigny, puisque la résidence c'est en partenariat à l'hôpital Avicenne. Et là, cette semaine, il devait y avoir la deuxième restitution, ça s'appelle Agapé, Agapé 2. Évidemment, ça n'a pas pu avoir lieu, mais ça sera reporté au printemps. Et vous m'avez envoyé quelques textes qui allaient être lus pendant cette deuxième restitution. Est-ce que vous pourriez nous lire un des portraits?
Oui, c'est-à-dire que souvent, en quittant les patients, sur le chemin de retour chez moi, je prenais quelques notes, j'ai osé comme ça écrire, et lors des restitutions au théâtre à la MC 93, j'offrais ces textes-là à des amis comédiens pour qu'ils puissent les lire, et c'était aussi pour moi, pour la première fois aussi, d'oser un travail d'écriture, un travail d'écriture pour parler de ces gens-là. Donc, par exemple, il y a Monsieur Koumé. Monsieur Koumé a 69 ans. Il a été professeur de sociologie en Côte d'Ivoire. Il me dit qu'il a peur, qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il dit que s'il était resté dans son pays, il serait peut-être déjà mort. Il dit aussi qu'il ne dort plus très bien. Le lendemain, au kiosque dans le métro, je lui achète un journal. Je rencontre sa femme dans la salle d'attente qui me dit que son mari m'attend. Elle est là, patiente, dans une attention soutenue et rêveuse. Monsieur Koumé me parle d'Abidjan et de l'université où lui et sa femme ont enseigné. Il me décrit des danses de son pays, cite des mots de Bernard Dadier, qui est un poète ivoirien, et il énumère des noms d'arbres, ceux de son pays et ceux du cimetière de Montparnasse. Nous parlons de France Fanon et de Aimé Césaire. Il dit que la politique n'est plus aujourd'hui un horizon de poésie et de rêve, que la politique ne représente plus un imaginaire pour le monde devenu triste. Il dit qu'il faut ouvrir l'espérance. Je lui prends la main et je lui dis merci. Avant de partir, je lui lis un poème où l'on raconte qu'il faut laisser les morts et les vivants se rendre à leur rendez-vous secret.
Thierry Tionyang, pourquoi le nom de ces restitutions, c'est Agapé?
Alors, je ne sais plus comment ça m'est venu. Je crois que j'ai lu dans un article, je crois c'est de Claire Marin, qui parlait d'un très beau livre sur les ruptures et dont la maladie fait partie d'une rupture dans la vie. Et Agapé, qui est un mot grec, qui est un mot qui veut dire l'amour, un amour inconditionnel, qui est souvent comparé à l'idée de compassion, de charité, au don. Un amour pour l'amour, simplement.
Ce qui est assez beau dans les restitutions publiques, c'est en tout cas celle que vous avez déjà donnée à la MC 93, vous le disiez, c'est que il y a une confusion entre patients, soignants. Il faut dire qu'il y a des artistes invités aussi sur scène à ce moment-là. Mais en tout cas, les choses circulent. C'est pas du tout. Personne n'est enfermé dans son histoire ou dans sa douleur ou dans son corps.
J'ai réussi pour cette première version, ce premier rendez-vous, et j'aurais dû le faire là aussi, donc cette semaine, à réunir des patients, des adolescents autistes, mais aussi des soignants, des médecins, des infirmiers, des éducateurs, des psychologues, à oser monter sur le plateau avec moi et les artistes invités. Et c'est vrai que je distribue comme ça des partitions, des rencontres chorégraphiques, des moments où le public ne peut plus savoir qui est l'artiste, qui est le patient, qui est le soignant. Et on s'est amusé la première version à porter tous des blouses blanches par exemple, et puis à les enlever, et puis et j'ai souvenir très très ému du public qui à la fin ne savait pas qui était qui et pensait qu'un tel était plutôt soignant, d'autres étaient plutôt artistes et souvent c'était le contraire.
La restitution publique, ça n'a pas pu avoir lieu cette semaine, mais vous continuez à aller à l'hôpital Avicenne en ce moment, Thierry Tionyang.
Oui.
On parle beaucoup de distance physique, évidemment, de distance sociale, enfin de tous ces gestes barrières. Quand on est chorégraphe, comment on entend tout ça, ces mots, et qu'est-ce que ça change au quotidien ?
Alors, ce qui est très troublant, c'est que effectivement, dans ma vie quotidienne, il y a tous ces gestes barrières. Dans le travail de répétition, même avec les différents projets que j'ai pu mener, il y avait toujours ces restrictions, ce travail avec masque ou sans masque, comment on se retrouve au plateau. Et avec ce deuxième confinement, j'ai eu peur de ne plus pouvoir aller à Avicenne, et au contraire, tous les services m'ont dit « mais si, il faut que tu sois là ». Et de toute façon, en me retrouvant à l'hôpital, tous les gestes de soins, de précaution, sont là, donc il y a des masques, il y a le gel hydroalcoolique dans les chambres stériles, je porte le costume de papier, donc de toute façon il y a quelque chose de cette protection, mais en même temps il y a le soin, il y a la parole, il y a le mouvement, je prends dans mes bras, je donne un bras, je prends dans mes mains une autre main. Et avec les adolescents autistes, je peux plus danser tous ensemble. Je travaille en individuel. Et là, il y a le contact, il y a la danse qui arrive. Je fais attention, mais on est ensemble, on danse ensemble.
Aristide Tarnagda, vous nous entendez depuis Ouagadougou ?
Très bien.
J'ai cité cette phrase que vous nous disiez au début de l'émission, au début de l'année, vous nous aviez envoyé « Le théâtre, c'est prendre soin de la vie ». Pour vous, le soin, c'est une notion importante, intéressante. Qu'est-ce que ça vous dit ?
Oui, c'est prendre soin. Je pense que c'est une notion nécessaire même. C'est être à l'écoute du monde, à l'écoute des autres, et tourner son attention vers les autres. Vers ses frères, ses sœurs, ceux avec qui on partage un quotidien, une angoisse, une inquiétude, un questionnement. Voilà, c'est cela pour moi en fait. Prendre soin, être à l'écoute de soi-même et des autres, et prolonger la vie. donner un coup d'épée à la solitude en fait des gens en les rassemblant, parce que le théâtre permet cela. Le théâtre permet de se dépasser, d'élargir les horizons, de se mettre ensemble et de partager quelque chose, d'être en communion. Donc voilà, pour moi, prendre soin, c'est tout cela en fait.
Donner un coup d'épée à la solitude, c'est pas mal, Thierry Tionnian, comme définition.
Oui,
pour votre travail.
Tout à fait, tout à fait. Alors je ne sais pas si c'est une épée que je brandis, mais j'essaie de faire comme disait Pasolini, de jeter mon corps dans la bataille, d'oser ne pas avoir peur, donc peur de ces corps empêchés, de ces corps interdits, et de pouvoir leur donner un mouvement, un éclat qui... comme disait Aristide, de donner aussi de la vie, prendre soin de la vie, c'est prendre soin des autres. Mais avant tout, c'est vrai, il faut d'abord prendre soin de la vie. En prenant soin de la vie, on prend soin des autres.
Vous restez avec nous, Thierry Tionnian, oui. Depuis votre chambre.
Oui.
On se télétransportera à Ouagadougou. Écoutez Tous en scène sur France Culture en direct. Nous sommes exactement entre Paris avec Thierry Tionnian et bientôt Ouagadougou avec Aristide Tarnagda. Avant d'y arriver, on va avoir la chance d'écouter un morceau inédit que nous offre Imani. Il fera partie de son concert-spectacle Voodoo Cello. Ce sera sa voix et 8 violoncelles pour reprendre des morceaux de Radiohead ou de Cat Stevens ou de Donna Summer. Et Thierry Tionnian participe au projet pour la chorégraphie. Alors l'occasion était trop belle, leur cadeau ce soir pour nous, c'est Concrete Jungle, reprise de Bob Marley, et leur album sortira au printemps.
Shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. Darkness has covered my light and the stage my day into night. Now where is the love to be found? Won't someone tell me? 'Cause a life must be somewhere to be found. Instead of concrete jungle, where the living is harder, the concrete jungle, you've got to do your best. No chains around my feet, but I'm not free. I know I am bound here in captivity. I've never known happiness. I've never known what a sweet caress is. Still, I'll be always laughing like a clown. Won't someone help me? 'Cause I got to pick myself from the ground. In this concrete jungle, what do you got for me now? The jungle, why won't you let me be now? Mm-hmm. must be somewhere to be found. Instead of concrete jungle, where the living is harder. In the jungle, why won't you let me be now? Now where is the love to be found? Won't someone tell me, 'cause life must be somewhere to be found. Instead of concrete jungle, concrete jungle, concrete jungle.
Merci beaucoup à Imani pour ce morceau. On part à Ouagadougou avec pour commencer les voix du réalisateur Danny Kouyaté et de son père, l'acteur metteur en scène burkinabé Sotigui Kouyaté. C'est une archive de 1995.
Il y a beaucoup de griots qui n'ont plus la parole parce qu'ils n'ont plus... Ils n'ont pas...
Ils n'ont plus d'oreilles qui les écoutent.
Déjà, l'homme n'écoute plus. Bon, moi je viens de l'école de mon père. Et je sais que, et par lui notamment, que de parler, c'est une belle performance, mais d'écouter, c'est une meilleure performance. Et d'ailleurs, c'est un problème général qui dépasse le griot. Ça va rejoindre tous les vieux. L'Afrique ne sait plus écouter ses vieux. C'est de moins en moins écouter ses vieux. Et ça, c'est dramatique. C'est d'autant plus dramatique que l'histoire se trouve à 80% encore dans leur esprit.
Et même sans te couper la parole, par rapport à cette histoire de vieux, on le dit même, parce que la jeunesse actuelle, d'ailleurs on dit, jeune homme sans expérience ne méprise pas la vieillesse. Tu as la force et la science, mais les anciens ont la sagesse. Et de plus en plus, la sagesse n'est pas le plus important pour la jeunesse actuelle. C'est l'intelligence, la science, et cette force qu'ils ont. Ils pensent que ça couronne tout. Et les vieux savent bien rattraper ce point parce qu'ils disent le jeune homme qui aura fait tous les tours du monde, quand il revient chez lui, il n'aura pas vu autant de choses que le vieillard qui n'a pas bougé de son village, qui est resté à l'ombre de son arbre.
Ça y est, on retourne à Ouagadougou, dans la cour du chef de Boukson Tenga, que vous avez décrite au début de l'émission, Aristide Tarnagda. Vous m'aviez dit que vous aviez envie d'entendre la voix de Sotigui Kouyaté, et j'aimais bien cette archive avec son fils, puisqu'il parle des anciens et de la transmission entre générations, et j'ai l'impression que, à travers les récréatrales, ce festival biennal de Ouagadougou, qui est le plus grand festival panafricain de théâtre, vous faites le lien entre toutes les générations, en tout cas que toutes les générations s'y retrouvent.
Oui, effectivement, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre Danny Kouyaté et puis son père Sotigui Kouyaté parler de transmission, parler aussi de la nécessité de travailler à restaurer l'écoute, à dresser les oreilles pour qu'on s'écoute, pour que la parole elle ne se désacralise pas, qu'elle ne circule pas dans le vide. Et effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce festival récréatral, créer cette espèce de porosité, de transversalité entre les générations, au-delà des générations, même entre les sexes, les genres, donc amener l'art, le théâtre, la musique, la danse, la peinture, parce que c'est tout ça ce festival, dans un quartier, ouvrir le festival par les habitants et avec les habitants et les habitantes du quartier, ben c'est effectivement chercher à ce que il y ait un dialogue intergénérationnel, à ce que la parole reparte d'où elle est sortie, elle a surgi, et que finalement il y ait une unité, il y ait communion, il y ait rencontre entre générations, il y ait transmission, que ce soit par le corps, parce qu'on a de la danse aussi, et que ce soit avec les mots, qu'il y ait partage. Voilà, je pense que c'est ça.
Et c'est pas pour rien que vous êtes dans la cour d'une maison, parce que la particularité des récréatrales, c'est que tout se passe dans un quartier et dans les cours familiales. C'est là que les spectacles ont lieu.
Oui, les spectacles ont lieu, mais aussi sont surtout créés. Les répétitions se passent dans les cours familiales, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de personnes dans ce quartier qui nous donnent un bel exemple d'humanité en nous ouvrant leur intimité et en permettant à des artistes venus d'Afrique, du monde, de partout, de s'installer dans leur cours familial, dans leur quotidien, de répéter des textes et d'accueillir un public au bout d'une année de résidence. Voilà, ça c'est complètement un geste formidable, un geste d'hospitalité et d'humanité formidable. Et finalement, voilà, se retrouver dans des cours familiales comme ça, des fois avec des gens qui n'ont complètement rien à voir avec notre métier, mais qui nous reçoivent avec générosité, avec passion, avec curiosité, avec désir. Voilà, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'a formidablement mis en place Étienne Minungu depuis une dizaine d'années dans le quartier de Boksomteng.
Et vous dirigez le festival depuis 2016. Là, cette année, ça fait. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'annulations, donc ça fait plaisir de se dire que la 11e édition des Récréatrales vient d'avoir lieu et que les choses se sont faites. Et un des spectacles s'appelait Le Quartier. Je crois qu'il a eu lieu là où vous êtes, là, dans cette cour du chef de Boksomtenga. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce spectacle avec 9 jeunes du quartier, et puis après on va en entendre 2 qui vous accompagnent.
Alors, effectivement, ce festival est implanté ici. Moi, j'ai hérité de la direction depuis 2016. Et je me suis dit, le quartier était associé à l'organisation. On faisait appel à peu près 100-120 jeunes du quartier pour aider à l'organisation, à l'accueil, à l'hébergement, à la billetterie. À un moment donné, mais c'est de façon intuitive. Mais de toute façon, faire de l'art, faire du théâtre, c'est aussi faire confiance à son intuition, à son animalité. Et donc, nos bureaux sont là, dans le quartier. Et puis, il y a des jeunes frères et des jeunes sœurs qui sont là, qui nous regardent faire, peut-être de loin, qui par timidité ou par, comment dire ça, par complexe, se disent que voilà, n'osent pas nous approcher, regardent les artistes de loin. Et moi, dans ma petite tête, et parce que aussi j'aime beaucoup la transmission depuis que je fais de la mise en scène, et donc je me suis dit qu'il fallait peut-être leur ouvrir, leur tendre la perche, et que peut-être que des vocations naîtraient à partir de cette expérience ou pas, mais en tout cas, il fallait que cette invitation leur soit proposée. Et voilà, donc je les ai approchés. J'ai approché d'abord un petit nombre qui est assis à côté de nos bureaux pour leur proposer de venir faire des ateliers, voilà, de théâtre avec moi, et puis on verra. Au départ, l'idée n'était pas de faire un spectacle, mais j'ai été très agréablement surpris par les premiers moments d'atelier où j'ai senti qu'il y avait là un potentiel ignoré par eux-mêmes, et que voilà, on tenait quelque chose, et que avoir le quartier dans la programmation de la plateforme comme festival ferait complètement sens et que voilà, c'est une façon pour nous de renvoyer l'ascenseur de l'hospitalité, le disant voilà, vous nous avez ouvert vos portes, vos intimités, vous nous avez accueillis, voilà, nous aussi nous vous accueillons à travers le métier que nous faisons, donc qu'est le théâtre. Voilà, c'est vraiment parti de là, de ces sensations, de ces intuitions, et puis voilà, ça s'est très très bien passé pendant la plateforme festival, un moment où l'humanité effectivement bégaye, où l'humanité s'arrête, où voilà, on peut plus faire quoi que ce soit et se rassembler, arriver à tenir une édition comme celle-là, c'était un vrai challenge. Et puis donc les jeunes nous ont aidés à, avec leur fougue, leur engouement, leur sens du risque, voilà, leur goût de l'aventure, voilà, ils nous ont aidés à y parvenir.
Et à côté de vous, il y a Ange Alfred Ilboudou et Maïmouna Sorgho. Ange Alfred et Maïmouna, est-ce que vous pouvez me raconter comment Aristide, qu'est-ce qu'il vous a dit la première fois où il est venu vous proposer ses ateliers de théâtre? Est-ce que vous aviez déjà fait du théâtre?
Allô, c'est moi Alfred. Bon, non, jamais. J'avais jamais fait du théâtre avant la proposition de monsieur Aristide.
Et qu'est-ce qui vous a convaincu d'en faire?
Bon, la curiosité, j'ai d'abord voulu voir ce qui se passe vraiment entre eux, parce que souvent, bon, très souvent et depuis fort longtemps, ils sont dans le quartier, nous on les voit, on les appelle des artistes, des acteurs, des comédiens. Bon, mais déjà la vision extérieure, c'est, voilà, c'est pas ça quoi. Et d'abord on a voulu, bon, par simple curiosité, et après quand ça a commencé à marcher, on a mis le paquet.
Ouais. Et Maïmouna?
Et
Maïmouna?
Oui, elle est là.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, est-ce que c'était la première expérience de théâtre aussi?
Oui, je peux le dire, oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre Aristide Tarnagda?
C'est une passion à moi, je rêvais tellement de faire du théâtre. Et l'occasion est venue comme ça. Voilà. Mais dans le quartier, on les regardait aussi et on commençait à être amis avec les étrangers qui venaient et repartaient. Et voilà, on est dedans maintenant.
Et qu'est-ce que ça vous a fait de jouer, de prendre la parole en public, de dire des textes? Qu'est-ce que ça vous a fait dans le quartier, devant des gens que vous connaissez peut-être, en tout cas en public, de jouer, de dire des textes pour la première fois?
Au début, ce n'était pas facile, mais comme c'était une passion, avec les autres, on s'accrochait et puis c'était comme de l'amusement. Et au fur et à mesure, on évoluait et puis c'est parti comme ça.
Et Ange Alfred, comment ça s'est passé la représentation? Qu'est-ce que vous avez ressenti en jouant?
Bon, d'abord j'étais vraiment gay, j'étais vraiment content, voilà, d'être porteur d'un message. J'étais vraiment, 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 vraiment émerveillé par la magie du théâtre, tu peux dire. Et en tout cas, ça faisait vraiment chaud, que le trac, tout et tout, vous savez. Une première fois, voilà.
Ça veut dire que vous
êtes... C'était pas facile.
Vous allez continuer?
Ouais, je crois que je vais continuer. Je sais que je vais continuer.
Aristide Tarnagda, si je me trompe pas, vous, au début des années 2000, c'est aussi un atelier qui vous a donné envie d'écrire.
Oui, c'est le... En fait, moi, je suis arrivé à l'écriture par les récréatrales, grâce aux récréatrales. En 2004, je rencontre Kofi Kwaoulé lors d'un atelier d'écriture. Et justement, j'étais jeune à l'époque, jeune comédien, étudiant. cherchant ma voix, enfin un peu, comment dire, comme tout jeune, quoi, désemparé, plein d'énergie, mais plein de doutes aussi, de questionnements. Et puis donc je me réfugie dans l'écriture, mais dans mon coin. Donc quand les récréatrales s'ouvre aux jeunes auteurs, donc je m'inscris et puis je rencontre Kofi Kaoulé, et ça a été vraiment une rencontre très très déterminante, parce que je n'ai plus du tout arrêté d'écrire, et depuis lors les récréatrales ont été un outil, un espace d'expression, de déploiement de mon écriture. Donc finalement, quand je pense à ça, je me dis que ce que je suis en train de mettre en place avec le quartier, avec les jeunes, ben c'est aussi un retour de l'ascenseur, parce que ce festival, à un moment donné, a pensé qu'il fallait faire de la place, qu'il fallait tendre la perche aux jeunes. Et donc, voilà, ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, et justement de près de 15-20 ans après d'hériter de la direction du festival. Donc, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit que, voilà, je ne devrais pas fermer cette porte-là, que c'est un espace qui devrait être un espace d'opportunités, de possibilités pour tout le monde, non seulement pour les artistes professionnels, parce que nous avons le laboratoire Élan qui accueille des artistes de différents profils. À chaque promotion du laboratoire Élan, on accueille au moins 15 artistes venant de toute l'Afrique. Et donc voilà, avec l'ouverture qu'on fait au quartier à des jeunes qui n'ont pas du tout l'expérience du théâtre et qui les regardent loin et à qui on dit, ben écoutez, venez vous éprouver, venez vous mesurer à vous-même.
Il y a un très beau texte de Dieudonné Nyanguna, l'auteur de théâtre, sur le quartier justement. J'en lis juste quelques lignes, donc sur ce projet avec les jeunes. L'appel du quartier, c'est fou ce que je n'y ai jamais pensé, recommencer le théâtre à zéro. C'est l'unique geste qui en vaille la peine. Défaire la partition ou en inventer une autre. Triturer la précédente et célébrer les adaptations. Transformer la chose et dire au convenu d'aller se rhabiller, la partie est lisiblement terminée. 9 jeunes de Buxom Tenga prennent d'assaut une affaire millénaire au sein de la cour du chef. Je parlerai d'une tribune d'honneur et la fragilité monte avec le désir qui amasse et l'écume sa poussée théâtrale. J'aime mater le théâtre naître. Voilà un petit aperçu de ce qui s'est passé dans la cour du chef, Aristide Tarnagda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et avec Alfred et Maïmouna. J'espère que vous allez continuer le théâtre. Normalement, les récréatrales arrivaient à Nantes au Grand T au mois de décembre. Malheureusement, ça a été annulé, mais je sais que toute l'équipe travaille à un report au printemps ou au début de l'année, donc au début de l'été. Donc on va veiller. Et puis vous mettez en scène Piste, le texte de Penda Diouf à la MC93, normalement en décembre avec le Festival d'automne. Et c'est pareil, ce sera reporté si ça se passe pas tout de suite. On espère en tout cas à bientôt, Aristide Tarnagda. Merci beaucoup.
Moi aussi j'espère. Et c'est moi et c'est nous qui vous remercions de d'être une caisse de résonance pour ce que nous faisons ici à Ouagadougou, à Buxom Tenga.
Merci beaucoup. On va poursuivre en parlant de transmission. Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent nous a quittés ce jeudi 5 novembre. Il faisait partie de ceux dont l'amour inconditionnel des mots, de la puissance des textes, du feu des comédiens, faisait penser qu'il n'était fait que pour la vie. Je me souviens d'une scène dans sa cuisine. Il aimait cuisiner, il parlait de cuisine, et il parlait avec le même désir fou du théâtre, en disant « C'est pareil, c'est savoir mettre ensemble des éléments hétérogènes pour en faire un miracle ». J'ai demandé aux élèves du groupe 44 du Théâtre National de Strasbourg, que Jean-Pierre Vincent a mis en scène dans l'Orestie au Festival d'Avignon 2019, après 3 années de travail ensemble, je leur ai demandé de nous dire un mot de ce qu'ils retenaient de ces moments. On entend les voix de Paul Fougère, Ferdinand Régent Chappet, Claire Toubin, Wedo Dossa, Isanis Padonou, Romain Gillot, Romain Gnéouchef, Mélodie Pigny, Yanis Kouta et Adrien Zumthor de l'ENSAT. Et ça commence par une phrase que Jean-Pierre Vincent disait souvent.
Arrête de chercher, trouve.
Moi, je me souviens du corps de Jean-Pierre. C'était un radiateur. J'étais pratiquement à l'opposé, assise à l'opposé de là où lui était assis, et je pouvais sentir sa chaleur qui émanait comme ça de son corps parce qu'il était bouillant. Bouillant dans son écoute, dans sa direction, déjà en lecture. Et ouais, il était avide de voir s'incarner la parole. Les premiers mots que j'ai écrits sur cette première séance de travail, c'était le feu. Il nous demandait d'être en feu.
Jean-Pierre, je crois que c'était un monstre de travail et d'amour. Et c'était un monstre féroce par son opiniâtreté à faire de grands spectacles qui parlent, comme il disait, du monde. Et la formule dans sa bouche n'était pas éculée ou dénaturée, d'un sens profond. En ce qui concerne l'Orestie, parler du monde, de notre place au monde et de l'importance de l'histoire pour comprendre, se comprendre aussi, où on en est aujourd'hui, pourquoi, on ne peut pas jouer ça n'importe comment. Puis plus simplement, je me souviens de mon costume doré avec sa superbe odeur de chèvre, le voyage des comédiens de Théo Angelopoulos, qui nous a montré, de ses carnets avec nous tous dessinés au fur et à mesure des répétitions, du duo incroyable avec Bernard Chartreux, en répétition. Il y a beaucoup d'autres choses, plus précises ou personnelles, plus liées au travail sur le moment où ils se faisaient ensemble. Ce sera l'œuvre de toute une vie d'acteur, j'espère, que d'accumuler les outils qu'il nous a transmis, car ils sont nombreux et précieux.
Il avait une espèce d'exigence du texte qui était inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il te lâchait jamais. Tu ne pouvais pas faire un pas de côté par rapport au texte sans que, enfin, presque, c'était viscéral, il te saute dessus, quoi. Et aussi, ce qui était particulièrement touchant, c'était les anecdotes. Parce qu'il avait un nombre d'anecdotes sur le théâtre, sur Gérard de Sarthe qui se retournait et faisait des grimaces aux figurants sur les gros spectacles qu'il faisait à Nanterre ou je sais plus où. Et enfin, on apprenait autant des anecdotes que du travail vraiment de plateau.
Je me souviens de la fois, après l'Orestie qu'on jouait à Avignon, dans lequel je jouais au reste, où mes parents étaient venus voir. Et à la sortie, Jean-Pierre Vincent est allé voir mes parents. Et moi, et il m'avait pris par l'épaule, il avait mis une main sur l'épaule, et il avait regardé mes parents, il avait dit je vous raconte pas, hein, il faut le pousser ce garçon pour en sortir quelque chose. Et voilà, il blaguait, c'était une manière de dire à mes parents qu'il avait confiance en moi et que je bossais bien, quoi. Et c'était sympa de sa part, et c'était quelqu'un de fidèle, je pense, avec les acteurs, et qui voulait faire travailler les jeunes acteurs. Puisqu'à la suite de ça, il m'a proposé de jouer dans son prochain spectacle qu'on devait répéter en ce moment, Antigone, avec de mes camarades de promotion.
Alors je me souviens de la fois où j'ai dansé la valse avec Jean-Pierre. C'était pendant une pause, pendant la répétition de l'Orestie, aussi de Gruber du TNS. Je rigolais dans la cuisine qui est derrière la salle de répétition en disant que je voulais apprendre la valse. Et puis à ce moment-là, Jean-Pierre il passe et puis il me dit « Ah bah tu vas apprendre, bah regarde, je vais te montrer, c'est comme ça qu'on fait, etc. » Donc il me prend par la main, on fait quelques pas et en même temps il me raconte une histoire, il me raconte la fois où il a, à l'époque où il dirigeait le TNS, où il avait ouvert le bal pendant la présentation de saison en faisant une valse avec sa compagne.
Je me souviens de ce film qui s'appelle Le Voyage des comédiens. On l'avait regardé tous ensemble avec Jean-Pierre et Bernard. C'est l'histoire d'une troupe de comédiens qui marchent sur le Péloponnèse et leur représentation est toujours perturbée par des événements politiques. Ça raconte la vie quotidienne et publique qui rencontre la poésie et qui la bouleverse. Ça raconte bien cette longue marche avec Jean-Pierre Vincent, cette bataille permanente pour que quelque chose advienne.
Jean-Pierre Vincent, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, avec qui j'ai appris beaucoup de choses et compris surtout beaucoup de choses à travers son regard et son travail aiguisé et mordant même, bien mordant dans le sens où il lâchait rien.
Bah Jean-Pierre, moi il me donnait un conseil, c'est en gros, tu n'expliques pas les choses avec les mains, ça ne sert à rien, on voit juste quelqu'un qui s'agite. C'est comme le tir à l'arc, quoi. Tu tends ton arc, ta flèche, tu tires, ta pensée est vive, elle est précise et tu touches la cible. Voilà. En gros, le conseil qu'il me donnait, c'était ça. Arrête de t'agiter, pense et ça suffira.
Une phrase que je retiens de lui qui disait souvent, c'est « vise avant de tirer ». C'est une phrase aujourd'hui qui est essentielle dans ma vie, dans mon travail. Voilà.
Je l'ai déjà vu avoir les larmes aux yeux en écoutant ces acteurs, nous, jeunes acteurs, au plateau. Quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire sur le corps prosaïque, je suis en train de le chercher. Il avait dit à une actrice au plateau, avance comme si tu allais aux toilettes et non comme si tu étais dans le lac des cygnes. Il parlait du corps prosaïque et pas artistique. Il disait la tragédie, c'est pas dramatique, c'est plus que ça. C'est tellement concret, tellement la merde. Les corps fatigués, affamés, déchirés, meurtris, c'est pas beau, c'est pas sucré. C'est plus grand que ça, et pour que ça soit plus grand, il faut que ça soit moins. Comme les statues de Giacometti, plantées là.
J'ai été très touché par la mort de Jean-Pierre Vincent. Et je me rappelle de beaucoup de choses, je me rappelle de son regard, je me rappelle d'anecdotes qu'il nous a racontées, et le théâtre c'est aussi ça, ça se transmet à l'oral. Mais je me rappelle une fois en répétition où on parlait avec lui du monde et du métier d'acteur, etc. Et il nous disait « Oui, moi je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Comment ne pas l'être ? Mais on a du courage. » Et c'est vrai, je crois, on a du courage.
On a commencé par se dire qu'il fallait prendre soin de la vie et donner un coup d'épée à la solitude. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir, merci à Jean-Guilain Meige. Il sera bientôt 21h, vous écoutez France Culture. On se quitte avec la voix de Jean-Pierre Vincent, c'était en 1990.
On retrouve dans la jeune génération le phénomène de l'auteur-acteur-metteur en scène, c'est-à-dire de quelqu'un qui est... Alors, ce sera aussi dévorant, hein, mais qui a plusieurs chapeaux, plusieurs casquettes. Et il n'y a plus de division du travail. Il y a moins de division du travail maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans. Et ça, je crois que c'est très positif. J'espère que ce sera positif pour nous faire vivre un peu plus longtemps, encore que je ne tienne pas spécialement à vivre vieux.
Pourquoi ?
Ben, si vous voulez, par exemple, je suis quelqu'un qui... J'ai un rapport, je crois, beaucoup plus simple à l'argent que beaucoup d'autres. Parce que je prépare pas ma retraite. Je ne compte pas avoir de retraite. C'est-à-dire, je compte, c'est peut-être un espoir absolument fou, être en bonne santé jusqu'au moment où je mourrai. C'est-à-dire que quand je pourrai plus faire de mise en scène, je ferai l'acteur. Ça peut aller jusqu'à Charles Vanel, disons. Mais je ne me vois pas inactif. J'ai commencé à 15 ans à faire du théâtre. Je n'imagine pas mon corps ne faisant pas de théâtre.
C'est une religion, le théâtre, hein, pas seulement pour un metteur en scène ou un acteur.
Oui, en tout cas pour moi, ça m'évite d'en avoir une autre.